je vais repréciser les règles et le déroulé de ce space de façon à ce que on soit bien au clair. Et ensuite, je vous présenterai bien sûr Léo et Benoît. En sachant que nous sommes sur un space stratégie et modalité de la prise de pouvoir qui consiste à échanger, bien sûr, avec Léo et Benoît sur comment nous, les citoyens, nous allons pouvoir récupérer notre souveraineté et notre pouvoir à travers une démocratie la plus directe. Je disais, pour reprendre la règle, que la sexualité, la santé, la religion et le vote sont appelés à rester dans la sphère privée. La polémique stérile, les attaques personnelles et les procès d'intention n'ont pas leur place dans cette agora. Les parler fort, les insultes, les propos répréhensibles légalement, les trolls sont immédiatement sanctionnés par une exclusion. Aucune censure néanmoins ne sera pratiquée dans le respect de la législation en cours. L'opposition bienveillante, la critique constructive et respectueuse, les divergences d'opinion sont encouragées. Le savoir-être et le savoir-vivre doivent être au service du faire, car la citoyenneté est un état transversal de notre humanité que nous devons développer. On va avoir une durée de space qui va être un petit peu limitée, comme j'expliquais avant que certains arrivent. J'ai un petit pépin personnel physique. Stéphane n'est pas là. Donc, comme Marc va être le co-hôte principal ce soir, compte tenu de cette limite que je vais malheureusement imposer, on va essayer de ne pas trop dépasser les 2 heures de space, ce qui nous amènera à 23 heures. Bien entendu, on vous invite à poster pour les intervenants en épinglé vos ressources, pour les autres dans la bulle qui est à votre disposition. Pour ceux qui vont intervenir, on vous invite à vous munir d'un bloc-notes physique ou numérique pour préparer vos questions, de façon à ce qu'elle soit le plus dynamique et précise possible. Également, ce space est enregistré, il sera retranscrit par une intelligence artificielle. De ce fait, on vous demande d'éteindre vos micros lorsque vous ne parlez pas. On vous demande de ne pas couper la parole aux autres intervenants pour que l'IA puisse faire une extraction la plus qualitative possible, afin de nous éviter de passer des heures à régler ces problèmes-là avec l'intelligence humaine. Et enfin, bien entendu, vous devez demander à être intervenant pour qu'on puisse vous faire passer en intervenant. Pour ce qui est donc de nos 2 intervenants principaux ce soir, Léo Giraud, que nous avons déjà reçu, donc normalement on devrait plus le présenter, mais je vais quand même le faire pour ceux qui n'étaient pas présents précédemment et qui ne le connaîtraient pas. Léo Giraud est donc un militant démocrate de longue date, autodidacte, très investi dans ses activités bénévoles dans des domaines tels que le droit constitutionnel, la rédaction collaborative et l'intelligence collective. Il se consacre aujourd'hui à temps plein aux nombreux collectifs au sein desquels il milite, spécialiste notamment en gestion de groupes, stratégie et communication numérique. Il met ses compétences au service des causes qui lui tiennent à cœur, notamment le référendum d'initiative citoyenne et autres processus constituants populaires. Son objectif principal est de faire du citoyen un législateur. Il participe à différents travaux et ateliers autour du RIC. Il est membre du conseil d'administration d'Article 3, organisateur des ateliers constituants hebdomadaires de Mumble Constituant et administrateur de nombreux sites. Nouvellement, il fait aussi partie du comité d'éthique de l'AMDF, l'Association des maires démocrates de France, que nous vous présenterons très prochainement. Bonsoir, Léo. Est-ce que j'ai... Enfin, c'est le texte de Stéphane, comme à son habitude, mais est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter ?
Non, bonsoir à tous, c'est parfait.
Très bien. Et on a donc également Benoît Guarani-Caillois, mécanicien agricole de 45 ans, qui est lui aussi un autodidacte dans plusieurs domaines, développant un esprit critique envers notre système politique dans le milieu des années 90. Il observe l'effet négatif des grands médias sur le comportement et les émotions de son entourage familial et amical. Au début des années 2000, il s'intéresse au pouvoir monétaire et à la finance mondiale, son influence sur l'économie et sa domination sur les pays et leurs populations. Mais ces référendums sur la Constitution européenne de 2005, suivi du fameux traité de Lisbonne, et grâce à Étienne Chouard, qu'il fait le lien entre l'absence de souveraineté citoyenne et les problèmes liés aux trahisons et professions de la politique. Dès lors, la prise de conscience qui en découle l'oblige à un militantisme actif. Il agit donc au sein de différents mouvements populaires, comme les Nuits Debout, les Gilets jaunes, le mouvement Antipass, en proposant de mettre en place des ateliers collectifs de réflexion sur les droits des citoyens. Aujourd'hui, il participe à des ateliers constituants en présence les premiers samedis du mois, en Gironde, à la création d'événements autour de la souveraineté populaire au sein de plusieurs mouvements. Bonsoir Benoît, merci de ta présence. Également, est-ce qu'il y a des choses à rectifier ou à apporter en plus de cette présentation ?
Bonsoir tout le monde. Non, c'est parfait, merci.
Très bien. Donc, bonsoir la vocation, salut Étienne Chouard qui est présent. N'hésitez pas à monter pour intervenir donc avec Léo et Benoît. En sachant que le but de ce space de ce soir, c'est de se poser la question de comment, parce que le space, c'est le SMPP3, solution et modalité de la prise de pouvoir, comment est-ce que nous allons pouvoir nous approcher, nous citoyens, de ce pouvoir et de cette souveraineté qui nous est due. Léo, Benoît, est-ce que vous avez une première observation à mesure justement ce droit souverain qui nous revient normalement de droit, et comment le récupérer ?
Mais d'abord, pourquoi s'intéresser à la Constitution, comment le récupérer et l'ancrer dans le dur? C'est cibler quelle norme dans la hiérarchie des normes est la plus importante, et donc c'est le droit constitutionnel. Cependant, il y a beaucoup de débats aujourd'hui avec la propagande de l'Union européenne qui disent que le droit européen, le droit international est au-dessus de la Constitution, ce qui est faux pour le moment. Je pense que ça serait bien peut-être un éclaircissement sur ça pour commencer, puis ensuite parler de comment prendre en main cette constitution et par quel biais obtenir une première démocratie. Je sais pas ce que
Alors,
vous en pensez.
ouais, mais là, encore une fois, et je vais vous dire très sincèrement ce soir, je vais me laisser guider parce que je ne suis pas en état de pouvoir vraiment être directif. Je vais d'ailleurs inviter Marc à très vite prendre la parole et les rênes de ce space pour justement mener un petit peu les débats. Mais j'entends bien, Benoît, un point très important, c'est cette fameuse hiérarchie des normes, c'est-à-dire quelles sont les normes législatives qui sont supérieures aux autres. Et effectivement, on a aujourd'hui dans cette pyramide des normes les traités internationaux et en l'occurrence donc le droit européen qui, en tout cas, nous est présenté comme étant supérieur au droit de notre Constitution. Or, normalement, ça ne devrait pas pouvoir être le cas. Donc, se pose la question, si j'ai bien compris, en tout cas, c'est celle que tu poses, de comment, dans un premier temps déjà, réorganiser la hiérarchie des normes pour que notre souveraineté constitutionnel soit plein et entier, c'est bien ça?
Oui, c'est-à-dire que y a aussi un point qui est important, à mon sens, c'est que tant que la constitution des pays est au-dessus du droit international, les stratégies ne sont pas les mêmes. Ça accepte les stratégies légalistes, et donc pouvoir prendre la maîtrise de la constitution par le biais d'outils, en fait, des possibilités que nous offre ce système, même si c'est compliqué. Et si les constitutions passent et sont validées à être en dessous du droit international, ça change toutes les choses. Il ne restera plus que les insurrections ou une union massive des peuples, donc une stratégie légitimiste, j'ai envie de dire plutôt, où tous les peuples, par exemple, de l'Union européenne se lèvent pour prendre le pouvoir. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, de préciser que pour l'instant, la constitution est encore au-dessus du droit international. Pourquoi? Parce qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2000, l'arrêt FRAISE, FRAISE, qui vient préciser l'article 54 et l'article 55 de la Constitution, et qui dit bien clairement que la Constitution est au-dessus du droit international. Par contre, les lois faites par le Parlement, donc le bloc législatif, lui, reste en dessous du droit international. Et donc, les lois faites par le Parlement doivent être adaptées aux lois faites par l'Union européenne. Et cet arrêt, il a été confirmé l'année dernière par la Cour de cassation. Donc, pour l'instant, ça veut dire que la Cour de cassation est. Pardon, par le Conseil constitutionnel. Donc, ça veut dire que pour l'instant, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont bien validé que la Constitution est au-dessus du droit international. Et ça nous laisse donc un champ des possibles qui est un peu plus grand que si notre constitution était définitivement et légalement soumise au droit international.
Donc ça veut dire que cette confirmation aujourd'hui du fait que le bloc constitutionnel est supérieur au bloc conventionnel nous offre une porte de sortie en quelque sorte de cet enfermement, cette fameuse prison dont parle Étienne bien souvent, qui consisterait dans notre constitution à modifier le droit citoyen pour que nous puissions redevenir pleinement souverains. C'est ça ta théorie, enfin, ton explication, Benoît.
Mais actuellement, oui, ça donne la possibilité d'utiliser cette constitution, de la modifier pour inscrire, par exemple, un processus constituant populaire permanent, un RIC constituant, par le biais de la modification de l'article 89. Ça peut être possible seulement s'il y a une grosse pression populaire derrière, ou s'il y a un candidat qui se présente avec pour seule et unique mesure cette modification-là. Et ça, c'est cette chose-là, prendre le pouvoir sur cette constitution. C'est valable que si cette constitution n'est pas en dessous du droit international. C'est pour ça que c'est important de préciser la hiérarchie.
Tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, je salue la vocation à qui je vais transmettre la parole juste après, je vais poser ma dernière question, c'est que finalement, ce bloc de constitutionnalité, le bloc constitutionnel étant confirmé comme étant prioritaire au bloc conventionnel. Si nous faisons, nous, citoyens, en sorte de modifier la Constitution de X manière pour récupérer un véritable pouvoir démocratique, celui-ci est notre porte de sortie. Donc en fait, ça, c'est la stratégie. C'est-à-dire que la stratégie, pour toi, elle est claire. Il faut travailler sur la Constitution. C'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Et du coup, par quelle modalité ? C'est-à-dire que stratégie et modalité de pouvoir, la stratégie est constitutionnelle. Et la question que moi, j'aurais à poser, c'est par quelle méthodologie, par quel moyen, par quelle modalité ?
Donc déjà, pour revenir rapidement sur cette question de l'Union européenne et de la hiérarchie des normes, là, j'ai mis un schéma dans la bulle, là, sous la publication, je ne sais pas si les gens le voient. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez intéressant parce que donc il y a la hiérarchie des normes, le schéma publié sur le site officiel, donc Vie publique, dans sa version de 2019, qui, moi, m'allait assez bien. C'est la représentation classique en droit français et même dans les autres droits. Donc, c'est le schéma classique qui a été revu en 2004 et je trouve que c'est très parlant. On y voit, en fait, un déplacement des traités internationaux qui ne sont plus considérés comme faisant partie de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire entre le bloc constitutionnel et le législatif. Donc ça donne l'idée que les lois ordinaires et organiques doivent obéir aux traités internationaux et aux accords internationaux, mais que la Constitution est au-dessus. Donc c'était bien dans cette version de 2019. Dans la version de 2024, on voit qu'il a été extrait de la hiérarchie, il a été mis à côté. La hiérarchie a été simplifiée. Alors, je suppose qu'ils vont mettre ça sur le dos de la pédagogie. En réalité, moi, ce que je vois, c'est quand on lit le schéma depuis le haut, ils ont essayé graphiquement de mettre à égalité les traités internationaux et les traités européens avec le bloc de constitutionnalité. Et alors, je ne sais pas si on peut parler de haute trahison graphique, mais pour moi, vraiment, on y est. Ils ont aussi fait disparaître les principes généraux du droit, comme si ça n'existait plus. Il n'y a plus de principes juridiques, en fait, on s'en fout. Donc, cette simplification, je la trouve assez suspecte et elle correspond tout à fait à ce qu'on peut... voir, donc on a parlé là de l'arrêt Fraisse, on pourrait parler aussi de Costa contre Enel, de l'arrêt Saran, voilà, il y a différents arrêts et donc certains se contredisent. Et donc évidemment, de la même manière que ce schéma de 2024, lorsqu'on demande à l'Union européenne, donc c'est dans l'arrêt Costa contre Enel, donc ça c'était la Cour de justice de la Communauté européenne, la CJUE, qui s'est prononcée avec son point de vue. Et donc ça, c'est un truc que je voulais clarifier parce que c'est souvent là qu'il y a quiproquo. C'est-à-dire que lorsqu'on demande à l'État français, donc en l'occurrence en 2000 avec l'arrêt Fraisse, c'était la Cour de cassation, elle s'est prononcée vis-à-vis des normes du droit interne. C'est-à-dire qu'en France, c'est la Constitution qui est supérieure au traité. Et ça, ça reste vrai. Par contre, quand on demande à la Cour de justice européenne, qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Elle dit, de son point de vue, des normes juridiques internationales. C'est-à-dire qu'elle fait abstraction du droit interne des pays. D'ailleurs, dans sa hiérarchie des normes, elle n'a pas mis le droit interne des pays, comme si ça n'existait pas. Ça dit la considération qu'ils ont pour nous. Et donc, en fait, c'est chacun le voit de son point de vue. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire que le droit européen est au-dessus. Alors, c'est vrai qu'il est au-dessus des lois ordinaires et organiques, donc les lois législatives, les codes, etc., parce que c'est ça qui fait que les traités sont applicables, c'est qu'elles sont au-dessus du droit ordinaire. Par contre, elles sont en dessous du constitutionnel, mais pas de leur point de vue, parce que de leur point de vue, l'Union européenne ne peut pas fonctionner, donc je ne parle que de l'Union européenne, mais ça vaut pour les autres traités aussi, l'Union européenne ne peut pas fonctionner si les constitutions ne s'y plient pas. Et donc ça, c'est un forcing qui est en cours, c'est le même forcing que ce qu'on peut voir apparaître sur les schémas. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'on est à un moment charnière, et donc il va falloir qu'on parle de ça peut-être dans la stratégie aussi un peu. En 2005, ils ont voulu nous faire passer une une constitution européenne, ce que disait Benoît, et cette constitution a été refusée. Elle a été mise en place en fait sous la forme d'un traité simplifié, mais qui n'a pas le nom de constitution, et donc l'interprétation dans la hiérarchie des normes, elle aurait pu être très différente. Ils auraient vraiment là pour le coup pu mettre la constitution européenne à égalité, parce que c'est leur fait partie intégrante du bloc constitutionnel en fait. Donc là, on a effectivement toujours une constitution qui est supérieure et c'est à ça qu'on peut se rattacher. Mais donc, on voit qu'il y a une volonté de faire abstraction des souverainetés nationales et de mettre l'UE avant le reste. Donc, il faut vraiment être vachement vigilant à tout ça. Alors, voilà, il faudrait être des dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers, à être vigilant à tout ça pour que ça n'arrive pas. Mais bon, on voit que c'est la dynamique qui est en cours. Donc, faire vachement attention à ça. Et donc pour répondre sur la question de la stratégie, notre stratégie actuelle, elle n'est pas forcément de mettre tout le monde à rue. La plupart des collectifs sont ouverts à toutes les stratégies dans les familles stratégiques. Il y a une stratégie qui convient à peu près tous les groupes, qui est la stratégie opportuniste. Dont profiter d'une insurrection n'est qu'une des options, en fait. Il y a donc la stratégie, dans toutes les stratégies légalistes, il y a notamment la stratégie électorale. Maintenant, il faut savoir, est-ce que le pouvoir constituant populaire passera par l'écriture d'une nouvelle constitution, ce qu'on appelle le pouvoir constituant originaire, ou la modification de notre constitution actuelle, les pouvoirs constituants dérivés. Donc voilà, après, je dirais que les stratégies, c'est un peu des questions de point de vue, c'est pas scientifique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de collectifs qui veulent rester ouverts à toutes les stratégies, d'où l'option stratégie opportuniste, qui a pour qualité de on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et donc du coup il y a une diversification, et aussi pour les militants il y en a pour tous les goûts, etc. C'est plutôt pas mal, c'est un kiff comme truc. Maintenant, le défaut, c'est qu'il faut être prêt. Or, nous ne sommes pas prêts dans toutes les stratégies. Là, je vais donner un peu la vision du MCP. Il y a un point commun à peu près toutes les stratégies, sauf peut-être le putsch qui serait à mettre à part, c'est qu'il nous faut le nombre. Tous les sondages nous disent que, en gros, les gens sont favorables au RIC, et même, donc, selon le dernier sondage, à 73% pour le RIC constituant, donc une maîtrise citoyenne de la Constitution, c'est vraiment l'avis majoritaire qui est derrière. Mais qu'est-ce qu'un avis majoritaire dans les sondages ? Dans les sondages, on leur pose une question, on leur demande de répondre à cette question. Mais est-ce que c'est cette question qui leur serait venue à eux ? En fait, la question, pour moi, elle doit être traitée sous l'angle de la priorité. Est-ce que pour les citoyens actuellement...
Léo, ouais. on va donner un peu la parole à Benoît, qui est le second invité.
Je conclue, si tu veux bien.
Voilà, s'il te plaît, merci. Et ensuite, bien évidemment, tu es l'invité, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, ce sera à Lilou pour le bloc de constitutionnalité. Je pense qu'elle va être peut-être plus claire que moi. Merci.
Ouais, bah, je vais pas traîner sur cette question. Donc la question de la priorité, c'est-à-dire qu'il nous faut des citoyens qui aient conscience que récupérer le pouvoir sur la Constitution est la priorité absolue, et que toutes les autres questions et toutes les autres revendications sont en fait secondaires, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, elles sont juste secondaires. Et si on demandait aux gens, sans leur donner les options, quelle est pour vous la priorité absolue, je pense que là, on ne serait pas à 73% qui répondent le RIC constituant. C'est ça que je voulais dire dans l'idée. Vas-y, Benoît.
Oui, sur les stratégies, en plus du besoin du nombre, et donc d'une masse populaire, enfin d'une cohésion sociale assez qui pèse assez pour faire soumettre le pouvoir en place, il y a une autre condition qui est très importante, qui est la connaissance des outils d'exercice de la souveraineté populaire, et aussi la compréhension des pièges qu'il y a actuellement dans notre constitution et dans les constitutions, dans les autres révoltes populaires qu'il y a pu avoir, ou les mouvements populaires qui ont pu échouer. Parce que dans la prise de pouvoir, si on veut vraiment une prise de pouvoir pour une première démocratie et que le peuple soit réellement souverain, si c'est une minorité qui guide la chose et que la grande majorité ne connaît pas ces pièges-là, ben, elle va se faire voler le pouvoir. Elle sera utilisée et au final, on leur fera croire qu'ils sont souverains, ils auront des outils qui sont totalement tordus, des rigs qui ne fonctionnent pas, des assemblées qui, ou même une représentation qui ne sera pas sous contrôle, et surtout un cadre des pouvoirs qui ne sera pas plus élargie que l'actuel, donc avec une possibilité de manipulation de la population et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a un besoin andragogique, pédagogie pour les adultes sur la population. C'est pour ça que moi je continue, enfin personnellement, avec mon petit niveau, à travailler sur les ateliers constituants et surtout en présentiel pour aussi créer du lien ou participer à des ateliers en ligne. Et, tout à l'heure, oui, pour la vocation, pour te répondre sur l'article 54. C'est justement, ben, c'est comme tous les articles de notre constitution, fausse constitution, comme dirait Étienne, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Et tout à l'heure, j'ai pas dit que l'article 54 disait que la constitution était au-dessus. Justement, il est flou cet article. J'ai dit que c'était la Cour de cassation qui avait bien précisé que la constitution, par le biais de l'interprétation de cet article, était au-dessus du droit international. Parce que là où il peut avoir un flou, je vais le lire, l'article, si vous voulez, c'est « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée, ou par 60 députés, 60 sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. »
Est-ce que, Léo, du coup, dans ce que tu as évoqué en termes de stratégie, c'est des choses qui sont envisagées, ces choses-là, les histoires de sécession ou de réécriture d'une société parallèle avec une constitution parallèle, parce que c'est des choses qui n'apparaissent pas dans les stratégies développées.
Alors, quand je parlais d'insurrection, moi, tout à l'heure, hein, c'était pour dire que, justement, l'insurrection n'était pas une option stratégique développée par les collectifs militants pour la souveraineté citoyenne actuellement. Il y en a, mais c'est vraiment à la marge. Alors, ce dont on parlait à l'instant, je crois que c'est la fraude au nom légal, qui est un délire qui des États-Unis. Ça se base sur le droit maritime, c'est une interprétation tordue du droit maritime qui dirait que les gens se sont fait voler leur identité avec l'ajout d'un nom de famille en majuscule. Enfin, pour moi, on nage dans du délire, il y a des gens qui aiment croire au délire, donc c'est presque de la science-fiction pour moi ce truc-là. Mais donc oui, pour les stratégies, donc j'ai mis dans la bulle là, les stratégies possibles du site RIC France, qui liste donc les familles stratégiques, l'ensemble des familles stratégiques, insurrections comprises, en listant avantages et inconvénients, et avec une deuxième partie sur les options choisies par les collectifs militants et la place, en troisième partie, la place du citoyen là-dedans. Je vous invite évidemment à lire la page en entier, c'est intéressant. Les stratégies qui sont, on va dire, centrales dans les pratiques des collectifs là. La première, ça fait même pas partie des familles stratégiques, c'est celle dont je parlais, c'est-à-dire que on a un problème préalable qui est que pour qu'une stratégie fonctionne, il faut qu'elle ait un fort soutien populaire. Que ce soit une stratégie électorale, une stratégie insurrectionnelle indépendantiste pour ceux qui sont concernés par ces questions, ou après même les stratégies technologiques, on pourrait en parler aussi. Et les stratégies démographiques, tout ça, ça se base sur le nombre, et donc il y a la nécessité de faire nombre. Faire nombre, ça passe par la mise en place d'éducation populaire. Il faut qu'il y ait donc un maximum de personnes. Alors, c'est pas tout le monde. Généralement, on dit que pour qu'une idée s'installe pleinement dans une société, il faut qu'en un assez court laps de leur... Voilà, c'est flou, assez court laps de temps, mais bon, on ne peut pas vraiment être plus précis. Les statistiques sont complexes et à l'échelle du monde, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Tous les pays sont différents. Passe de 0% de soutien à, dit-on, plus de 10, donc 11% de soutien. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, il faut réveiller tous les endormis. Alors déjà, ça ne marchera jamais. Mais voilà, déjà, si on arrivait à réveiller, j'aime pas trop ce terme, mais bon, on va l'employer quand même, 4-5% de la population, ce serait gigantesque. On aurait fait un pas considérable. Quand je dis éveiller, donc en fait, ça revient à ce que je disais avant, qu'ils prennent conscience que la souveraineté populaire est donc constitutionnelle, est la priorité absolue. Dans les stratégies, donc, je parlais tout à l'heure de la stratégie opportuniste. Je vais parler à ta place, Étienne, mais tu peux venir défendre ton point de vue sur cette question. Donc, c'est la stratégie opportuniste, et donc pour faire le lien avec la stratégie insurrectionnelle, aucun des collectifs dont je fais partie, et je fais partie de beaucoup de collectifs, ne défend cette stratégie insurrectionnelle, déjà, parce qu'en tant que personne morale, ce serait condamnable, et pour les personnes morales non déclarées, on serait chacun pénalement responsable de nos propos. Donc, c'est pas une option pour les collectifs. Maintenant, quand Étienne en parle, c'est quelque chose qui n'est pas à mettre de côté, c'est que Étienne dit, de tout temps, il y a des insurrections, et à chaque fois, le peuple l'a dans le baba, parce qu'il laisse d'autres que lui s'emparer du pouvoir constituant. Et ça, c'est la partie que je trouve intéressante quand même, parce que ça rejoint l'idée qu'il faut que le peuple comprenne et intègre et connaissance au sens littéral, qu'il renaisse avec cette idée que c'est à lui d'écrire les règles les plus puissantes du pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'on s'attache notamment autour des idées comme donc le rite constituant, mais aussi l'assemblée constituante intégralement tirée au sort, et j'insiste sur le intégralement, petit coucou Mélenchon. C'est important, quelle que soit la manière dont ça peut se faire maintenant, il y a stratégie long terme, ce qu'on appelle la finalité en stratégie, qu'est-ce qu'on vise loin, et il y a le chemin pour y arriver, qui est donc constitué d'objectifs et de sous-objectifs. Et au sein de ces sous-objectifs, il y a des tactiques à mettre en place. Et pour l'instant, beaucoup de la réflexion des collectifs est en fait sur les tactiques. Il y a un truc de on ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, et puis on fonce dans une tactique, et il en faut pour tout le monde. Mais si on prend un peu de recul et qu'on se place dans la stratégie globale, et donc qu'on s'intéresse à la finalité et au chemin pour y arriver, il y a plusieurs besoins, donc notamment celui d'avoir une population éveillée à cette question, qui a pleinement conscience que tout ce qui a été mis en place pour nous diviser vise en fait à nous exclure du pouvoir constituant, et que c'est à nous de dépasser les clivages pour se concentrer sur l'essentiel. Je vais refaire du Étienne, mais on se chamaillera pour savoir s'il faut aller à gauche ou à droite quand on sera sorti de la prison.
Donc, et concrètement, c'est-à-dire qu'on va voir les gens et on leur dit « bon, ok, vous n'êtes pas d'accord sur l'immigration, bah, on le décidera quand on aura le pouvoir ». En gros, c'est ça, le discours. On le réglera dans le RIC.
Ouais, le fond du truc, c'est que, et c'est même pas forcément par le RIC directement, ça c'est un petit peu le raccourci, mais je l'accepte totalement. Quand on parle à des gens, on ne peut pas forcément leur décliner toutes les positions stratégiques, les possibilités, tout ça, donc il faut quand même faire des raccourcis. Mais l'idée, c'est que la première chose qu'il faut que le peuple fasse, c'est redessiner des institutions qu'il ne l'exclut pas. Et après, dans un second temps, on verra les questions législatives. Et puis, comme je disais, de toute façon, dans le cadre de l'Union européenne, étant donné que tout le législatif est strictement inférieur et doit caler, sauf option de retrait, comme on dit opt-out en anglais, doit se caler sur les traités, en fait c'est des questions qui sont non seulement secondaires, mais vu qu'on est dans des prisonniers, on va dire, de traités également, qui ne nous laissent pas une grande marge de manœuvre, et qu'on se fait noyer de directives à longueur de temps pour ce qui est de l'Union européenne, l'idée c'est de dire vraiment, focalisons-nous un instant sur les institutions, d'où l'idée des ateliers constituants, parce que ça permet en groupe de réunir des gens qui pensent différemment, des gens de gauche, des gens de droite, des abstentionnistes convaincus, des peu importe, tout le monde, des centristes, des royalistes, des anarchistes, voilà, et de s'intéresser ensemble aux institutions qui font du bien au peuple. Et toute la difficulté, elle est là, c'est au fur et à mesure des discussions, d'apprendre en fait à faire le tri entre ce qui nous divise et ce qui nous rassemble, et se concentrer sur ce que l'on veut faire ensemble, pas ce qu'on veut faire différemment des autres et commencer à se prendre la tête, quoi. Quelles institutions on veut dessiner, et c'est un jeu de réflexion. Moi, j'invite tout le monde à faire au moins un atelier constituant dans sa vie, si ce n'est en faire régulièrement. Et ça peut commencer sur un coin de table, c'est juste, ça peut être, il y a des milliers de façons de le faire. En ce moment, au MCP, une fois par semaine, on lit la Constitution de 58. Alors il y a des gens, ça ne leur convient pas du tout comme méthode, parce qu'ils se rendent compte que la Constitution, elle est horrible, c'est déprimant, mais c'est une façon de faire, c'est comprendre l'état des lieux. Il y a une autre façon de faire, qui est de partir d'une feuille blanche, et de s'intéresser donc au grand concept, et... ça peut avoir le défaut de réinventer de la roue un petit peu, mais voilà, pour moi, c'est une idée super importante qui est vraiment de se focaliser sur les institutions et sur le pouvoir constituant. Et le RIC ferait partie de ces institutions que le peuple mettrait en place pour ne plus être tenu à l'écart.
Est-ce que tu pourrais préciser deux points et après, on passera la parole à Nid, Annie qui fera une question. Il y a deux points que tu as évoqués. Il y a redessiner les institutions pour qu'elles n'excluent pas le citoyen. Est-ce que tu pourrais donner un exemple pour que ce soit concret? Et le deuxième point, c'est, tu as fait allusion à Mélenchon et à l'Assemblée constituante qui n'est pas entièrement tirée au sort dans leur proposition. Néanmoins, leur proposition, elle était assez attrayante. C'est-à-dire qu'on pouvait voter pour quelqu'un ou prévoir du tirage au sort. C'est-à-dire que si on votait blanc, en gros, ça voulait dire que la masse de vote blanc était tirée au sort. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux points? Et après, on passe la parole.
Ouais. Sur l'exclusion, on va prendre un exemple simple, hein. Si on parle du pouvoir constituant, l'article 89 dit que l'initiative des révisions appartient au président de la République sur proposition du Premier ministre et au Parlement. Il est où le citoyen là-dedans?
C'est sur le RIC constituant.
Le citoyen, il ne se retrouve que dans un alinéa suivant qui parle du référendum. Référendum qui n'est possible que dans le cas des propositions de révision, c'est-à-dire quand c'est le Parlement qui est à l'origine. Et comme par le plus grand des hasards, le Parlement, il n'en fait jamais des propositions de révision, ou très rarement, et quand il en fait, elle ne passe pas. Et la dernière en date, par exemple, était à l'origine une proposition, c'était sur l'IVG, là. Sauf que le gouvernement ne voulait pas de référendum. Donc, le Parlement a retiré sa proposition, l'exécutif l'a remis sous forme de projet afin de pouvoir contourner le référendum. Donc, même la petite partie où nous sommes, dans l'article 89, le référendum, ils ont fait en sorte que ce soit contournable par la linéa 3 qui dit « Toutefois, le président de la République peut convoquer le Congrès et outrepasser le référendum. » Donc, voilà, ça, c'est typiquement le type d'exclusion que les citoyens ne feraient pas. Voilà pour cette question-là. Sur l'Assemblée constituante tirée au sort, donc il y a deux points. Le premier, c'est que si tu laisses aux gens le choix entre élire des gens qui pensent comme toi et donner ta voix au tirage au sort, énormément de gens qui vont se dire « c'est super qu'il y ait du tirage au sort, mais moi je connais des gens qui ont mes idées et donc je vais voter pour eux et je laisse les autres s'occuper de la partie tirage au sort ». Sauf que tout le monde va penser un petit peu comme ça. Et les gens vont faire comme d'habitude et élire l'Assemblée constituante.
Ok, mais est-ce que tu as des exemples là-dessus ou pas?
Le modèle proposé par Mélenchon n'a pas été essayé jusqu'à présent.
Dans un autre pays ou quoi? Non, on n'a pas de retour.
Pas à ma connaissance. Non.
Parce que je me dis aussi que de poser la question, peut-être que le peuple prendrait conscience aussi.
Moi, ce qui me dérange. En tout cas, ça mettrait le débat sur la table. Mais juste rapidement, le point rapide, c'est qu'il y a tirage au sort et tirage au sort. Il n'est pas proposé de modalité. Alors déjà, il faut savoir, est-ce que c'est un vrai tirage au sort? Est-ce qu'il est vérifiable? Parce qu'il y a des tirages au sort par randomisation, il y a des tirages au sort par pas, par exemple, qui sont vérifiables et on peut arriver au même résultat, donc on peut garantir qu'il n'y a pas de triche. La partie importante dans le tirage au sort, c'est faire attention au volontariat. Il y a deux types de volontariat dans le tirage au sort. Soit on fait une liste de volontaires et on tire au sort parmi eux. Ça, c'est une catastrophe, mais absolue. Il y a zéro représentativité là-dedans. Et la deuxième, qui est on tire au sort, et puis après, on demande aux gens s'ils sont volontaires pour participer. Ce qui est moins une catastrophe, mais ce qui est quand même une catastrophe. Un bon tirage au sort, c'est sur le même modèle que les jurés d'assises, c'est-à-dire que les droits de refus sont extrêmement limités. Et Mélenchon, comme d'autres, ne se sont pas prononcés sur ces questions. Et quand on a vu, par exemple, la Convention climat, en fait, c'était une convention de volontaires.
Moi, ce qui m'inquiète le plus dans les propositions de Mélenchon, c'est qu'il a ça dans son programme, mais ce n'est pas sa priorité. Et donc, du coup, on s'est assez fait avoir par tout type de parti qui ne sont pas claires dans leurs priorités. Et au final, si c'est pas, c'est ce que disait Benoît hein, tout à l'heure, je pense, disait que ça doit être la seule mesure, en fait, prendre le pouvoir au peuple.
Ouais. En fait, c'est quand même une priorité. Hein. Ils en parlent énormément de leur 6e République. Mais là aussi, il y a une contradiction que je tiens à souligner. C'est qu'ils disent la 6e République, ce sera formidable parce qu'elle sera comme ci, elle sera comme ça, elle sera comme ci, elle sera comme ça, il y aura ci, il y aura ça. Et après, ils parlent d'assemblée constituante. Donc, soit c'est une assemblée constituante qu'il écrit, et donc on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans, soit elle est décidée à l'avance. Mais on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Ça, c'est du grand n'importe quoi.
Oui. On passe la parole à Ami.
Oui, bonsoir. Débat assez intéressant, en fait. Et, moi, je suis franco-tunisien, mais j'ai habité longtemps en France. Et depuis 15 ans, j'habite en Suisse. Donc, le pays modèle, on va dire, de la démocratie participative. Et je pense, en fait, qu'on... En tout cas, c'est mon avis personnel et on peut ne pas le partager. Je pense qu'on se fait beaucoup de fantasmes sur... En 2025, sur la capacité en fait de gens random, sans être méchant, à pouvoir en fait gérer la complexité du monde dans lequel on vit, dans le sens où là j'ai entendu dans la discussion qu'il y a eu juste avant, on parle de choisir des gens au hasard pour rédiger la constitution, mais enfin je sais pas. Alors je veux bien en fait, mais si vous pensez vraiment qu'on peut confier l'avenir du pays sur des gens qu'on choisit au hasard, bah, le jour où vous avez une appendicite, bah, on va réunir 200 personnes et on prend un au hasard et on met dans le scalpel. Enfin, si vous me dites, ah ben non, attendez, je ne vais pas me faire recruter par n'importe qui, mais c'est-à-dire que ton avenir est plus important que l'avenir de ton pays. C'est un exemple un peu bah, sûrement provocateur de ma part, mais c'est juste pour dire, aujourd'hui, on évolue dans un monde qui est extrêmement complexe. Moi, je travaille dans le milieu de tout ce qui est financier, comptable, etc., dans des grands groupes, etc. Je vois cette complexité de mon prisme, en tout cas, et j'en vois pas. Je ne vois pas tout, mais en tout cas sur la partie relations internationales, commerce international, etc., les choses sont extrêmement complexes et c'est ce qui régit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire que cette partie, elle n'est vraiment pas négligeable. Et c'est d'une complexité qui est tellement extrême, en fait, de rester dans le logiciel de ce qu'était la démocratie à l'origine, c'est-à-dire à plusieurs siècles en arrière, où la vie était quand même beaucoup plus simple, où les gens... de tous bords en fait peuvent décider sur le sort de leur patrie ou ce qu'on veut dans un monde qui était plus simple. Aujourd'hui on a une complexité, ça veut pas dire qu'il faut pas faire participer les gens, mais il faut que faut pas que les gens ou le peuple se trompe dans sa capacité à gérer les choses. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels, ça peut être des sujets ponctuels, ce qui se passe en Suisse d'ailleurs, quand il y a des référendums, c'est pas sur des sujets complexes. Et même parfois sur des sujets complexes où il y a des traités, etc., bah, le vote quand même, il aboutit dans le sens qui n'est pas prévu, bah, c'est retoqué, parce que derrière, bah, il y a un national qui est contraire à ce que le peuple souverain a décidé, et bah, ça ne se passe pas, parce que tout simplement, la Suisse, comme la France, comme d'autres pays, sont engagés dans certaines choses. Et c'est pas aussi simple, c'est-à-dire qu'on peut pas se lever et décider qu'on peut faire ce qu'on veut. Il y a énormément de contraintes et il y a une complexité, c'est plus ça. Et en fait, en faire fi ou l'omettre complètement de l'équation, c'est, enfin, je sais pas, pour moi, c'est un peu lunaire, en fait. C'est-à-dire que c'est pas antidémocratique ce que je dis, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire participer la population. Et par exemple, dans les référendums en Suisse, souvent, ce qui se passe, il faut avoir 100 000 signatures en fait, pour déclencher la possibilité d'avoir un référendum. Généralement, c'est rodé donc, dans le sens où les associations qui font ça, ils sont autour d'experts dans le domaine pour avoir un rationnel ou une vraie étude sur le sujet qui soit assez factuel, etc., et qui soit assez complète. Et au moment où le référendum est lancé, en fait, donc il y a une proposition, c'est-à-dire qu'en fait, sur le site, enfin sur les sites publics suisses ou sur les flyers qu'on va donner, il y a le point de vue du groupe ou du collectif qui a lancé l'idée ou le référendum, avec des éléments factuels, et puis il y a l'avis du gouvernement local, enfin, du canton au fédéral, ça dépend si c'est un référendum cantonal ou fédéral, qui va aussi lister des éléments factuels, mais tout ça c'est à peu près contrôlé dans le sens, c'est-à-dire qu'en fait, si des gens racontent des dingueries et des mensonges grossiers pour induire en erreur, bah, ça passe pas en fait, c'est-à-dire qu'il faut apporter des éléments vraiment factuels et précis des deux côtés, et c'est ça ce qui est communiqué au public, et les gens font leur opinion en connaissance de cause, dans le sens où on va leur présenter, mais ça reste sur des sujets qui sont abordables. Parce que quand je dis abordable, ce n'est pas méprisant. Pardon, oui, vas-y, si tu veux interagir.
Alors, je vais proposer à Léo de répondre, en fait. Léo, est-ce que tu veux répondre ?
Oui, alors, effectivement, l'exemple est peut-être un peu caricatural, mais il va me permettre d'exposer une opposition formelle à ce principe de tirer au sort une personne. Moi, je suis un grand défenseur du tirage au sort. Je suis strictement opposé à l'utilisation du tirage au sort pour tirer au sort une personne. Et pas que dans le cas de l'opération chirurgicale, dans tous les cas, absolument tous les cas. L'objet du tirage au sort, c'est de faire appel à la loi des grands nombres pour bénéficier de ce qu'on appelle les mini-publics en politique. Et donc, c'est des échantillons représentatifs. Qui dit échantillon dit c'est une assemblée. À aucun moment on va tirer au sort une personne, ou s'il y a des gens qui proposent de tirer au sort une personne, bah, je m'y opposerai, parce que je suis absolument fondamentalement en désaccord avec ça. Ce qu'il faut voir sur le... Donc, tout ça a été très étudié, hein, les concepts d'intelligence collective et de décision complexe. Au contraire, c'est pas très intuitif, mais une grande quantité de personnes sont beaucoup plus aptes à décider sur des systèmes complexes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui gèrent, notamment dans la techno, tout ça, les questions sous l'angle de ce qu'on appelle le management participatif chez les Américains. L'idée, c'est que, justement, c'est parce que les problèmes sont de plus en plus complexes à gérer que les systèmes pyramidaux s'effondrent. Et que l'idée, c'est qu'avec des systèmes horizontaux et avec des assemblées qui ont des réflexions abouties, on peut arriver à de meilleures décisions parce que la multiplication des points de vue, leur croisement et leur consentement sur une prise de décision permet d'arriver à des choses qui sont beaucoup plus justes et qui sont justement, qui font beaucoup moins d'erreurs. Il y a une vieille étude qui est connue, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon, c'était sur le poids d'un bœuf, je crois, où ils demandaient à des bouchers d'estimer le poids d'une pièce de bœuf, et puis après, ils demandaient à des gens random d'estimer le poids de cette pièce de bœuf. Et c'est vrai que les bouchers étaient beaucoup plus proches du vrai poids que la plupart des gens, mais si on faisait la médiane des réponses des gens, et ben, c'était plus proche que celle de n'importe lequel des bouchers. Donc, il y a dans, et ça c'est un exemple caricatural lui aussi, mais ça permet de bien comprendre l'image, il y a dans l'intelligence collective des capacités ignorées du grand public qui, ça peut faire peur, quoi. Mais c'est très étudié par les sociologues.
Je peux répondre là-dessus, et c'est entièrement vrai, hein. Je vais pas te contredire, parce que j'ai vu aussi un reportage qui demandait à des gens d'estimer la distance entre Paris et New York. Et en fait, ça, c'était un groupe, je sais plus, de 2000 ou 3000 personnes, et en fait, quand on prend la médiane des réponses de ces 3000 personnes, c'est ce qui s'approche le plus à la vraie réponse. Ça, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est valable sur un monosujet, c'est-à-dire sur quelque chose qui s'approche par une seule variable. Par contre, quand on est sur des sujets qui sont multidimensionnels, c'est-à-dire que quelque chose où il y a 15-20 critères, c'est-à-dire que quand on parle de politique internationale, de géopolitique, de commerce international, ce genre de sujet, en fait, il y a au moins 20 variables.
Des critères, hein, tu peux y aller. Hein, des
milliers, oui, mais en fait, tu peux avoir 15-20 variables différentes. Et là, en fait, cette loi, elle s'effondre parce que les gens ne peuvent pas, en fait, c'est-à-dire que la médiane des réponses des gens ne peut pas couvrir ces 15 ou 20 variables pour tomber juste. Ça, c'est impossible. Et cette loi, elle est valable que quand on est sur un critère simple.
L'exemple est caricatural et simpliste. Mais en fait, dans les systèmes, je parlais notamment du consentement, mais il y a des systèmes de consensus aussi, il y a des techniques. L'intelligence collective est expérimentée depuis très longtemps et on ne fait pas des médianes des avis. On travaille en assemblée avec des méthodes où on va, par exemple, dans le consentement, rechercher les objections, on va trier les objections, on va vérifier la qualité des objections. Il y a de longues discussions, c'est des discussions qui peuvent être longues, donc ça prend plus de temps, mais pour les problèmes complexes, au contraire de ce qu'on peut s'imaginer, c'est beaucoup plus efficace, c'est-à-dire qu'il y a moins de possibilités d'erreur. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais une personne seule en a plus. C'est juste à titre de comparaison. C'est pas parfait, rien n'est parfait dans la vie. Mais une personne seule peut vraiment faire grosse connerie, l'histoire l'a prouvé. Maintenant, je voulais parler aussi un petit peu de l'histoire par rapport à la complexité, des limites et de la conscience de ses propres limites.
Est-ce que tu peux être assez bref là-dessus? Parce qu'en fait, on s'éloigne de l'histoire de la prise du pouvoir et là, on attaque le fondement. Est-ce que c'est bien ou pas la démocratie? mais,
ouais, mais du coup, ça peut expliquer un petit peu le pourquoi du comment du tirage au sort de l'Assemblée constituante et de pourquoi okay. Est-ce que c'est quand même...
Vas-y, après on passera la parole à la démocratie directe.
Lorsqu'on réfléchit aux institutions, justement, on ne va pas réfléchir à des questions de type législatif, on va plus être dans une abstraction, on va réfléchir à des modèles. Et les gens avec qui j'ai pu faire des ateliers jusqu'à maintenant sont conscients de leurs propres limites et savent qu'il va y avoir besoin de spécialistes. Nous, dans nos ateliers, on a mis en place ce qu'on a appelé les assemblées ad hoc, donc c'est des assemblées qui sont convoquées sur cahier des charges pour participer en gros justement à créer la vraie intelligence collective de spécialistes, sans pour autant qu'elle soit forcément, voire jamais décisionnelle, ça c'est à discuter. Mais les gens sont tout à fait conscients qu'ils ne sont pas capables de traiter toutes les questions et sont prêts facilement à réfléchir, quand on réfléchit à des institutions, à quelles institutions permettraient d'arriver aux meilleures décisions, même dans les cas où ça nécessite des spécialistes.
Merci. Démocratie directe.
Oui, bonsoir à tous. Ouais, je rejoins Léo sur le dernier point qu'il a dit, à savoir que effectivement, dans une assemblée de citoyens tirés au sort, pour quel que soit le sujet d'ailleurs, évidemment, cette assemblée fait appel à des experts pour avoir leur avis divers et variés et pour enrichir l'assemblée sans que, évidemment, ces experts aient quelconque décision à prendre et que ce soit l'assemblée citoyenne au final qui prenne la décision. J'ai été longtemps défenseur, d'ailleurs, comme Léo, hein, du tirage au sort. C'est toujours un outil qui est intéressant. Par contre, on parlait de stratégie. Dans la stratégie, il y a la possibilité d'avoir une constituante, on l'a évoqué. C'est un point où je suis maintenant fermement convaincu, et pour le voir avec les expériences du Chili et d'autres pays, qu'une seule constituante centrale, qu'elle soit élue, bon, ça c'est le pire cas, mais même tirer au sort n'est pas la meilleure des stratégies, la meilleure solution. Je suis revenu là-dessus, sur le fait que maintenant, technologiquement, et par l'expérience des échecs de ce constituante dans d'autres pays, il est mieux de faire une constituante sans limite de personnes sur tout le territoire, c'est-à-dire que tous les villages, toutes les mairies, pourrait accueillir tous les volontaires qui souhaitent discuter de la Constitution, et avec une méthode précise qui a été commencée d'ailleurs par les Nuits Debout et qui a été repris par les Gilets jaunes et qu'on retrouve, qui reste à finaliser comme travail. Il y a une méthodologie nationale de constituante multiple sur tout le territoire qui permettrait à tous les citoyens de travailler dessus, qui le souhaitent sûr, et de fédérer plus du coup sur la finalité de la constituante, parce que quand vous faites une constituante de 500 ou 1000 personnes, elle sera certainement, même tirée au sort justement, elle sera certainement géniale, bien élaborée, mais elle n'aura pas été travaillée par l'ensemble des citoyens qui n'auront pas surtout partagé et qui n'auront pas suivi le même chemin que les personnes. Quand vous arrivez dans une assemblée tirée au sort, au départ vous avez vos idées, et vous ressortez avec d'autres idées grâce à ce que disait Léo, à la participation collective avec des méthodologies particulières. Donc le fait d'avoir que 500 personnes, on risque d'avoir après, puisque la constituante, au bout d'un moment, elle va écrire la constitution, il va falloir la soumettre au peuple. Et c'est à ce moment-là qu'ils risquent d'avoir refus pour incompréhension, parce qu'ils n'ont pas participé tout simplement, et qu'une majorité de citoyens n'a pas participé, et les frères et les sœurs qui étaient à côté, même s'ils n'ont pas participé, quand vous avez tout un peuple qui participe dans toutes les mairies, ils se sentent beaucoup plus impliqués et vous avez plus de chances que la mouture finale passe, en fait, par un processus où d'ailleurs on fait des votations régulières. Voilà. Donc, dans les stratégies, moi je propose maintenant aujourd'hui de plus partir sur une constituante centrale, même tirée au sort, mais une méthode nationale de deux constituantes au pluriel. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'aimerais qu'on revienne sur la définition de souveraineté populaire, qui est le sujet du space, et de la définition de la démocratie directe vue par Léo, souveraineté populaire, démocratie directe, et qu'est-ce que tu en penses de la constituante au pluriel?
Alors rapidement, l'un n'empêche pas l'autre, on en a déjà parlé, chez les gentilvirus, ça a été de longs débats sur la question des volontaires et des petites assemblées. Moi je pense que penser des petites assemblées locales, ce qui est très intéressant, une assemblée tirer au sort pour s'occuper de choper les meilleures idées qui ont eu lieu à gauche, à droite, plutôt que de demander à chaque petit groupe de se prononcer sur l'ensemble de ce qu'on fait, l'ensemble des autres petits groupes. Ça, c'est vraiment une usine à gaz. C'est les Nuits Debout de Toulouse qui ont proposé ça. C'est, c'est bien sur le papier. Ça ressemble aux méthodes proposées par Condorcet en 1793. Ça n'a jamais été appliqué et c'est considéré par beaucoup comme étant même pas réellement applicable. Donc, à voir. Maintenant, je suis absolument favorable à ce qu'une assemblée se nourrisse du travail des autres assemblées. Nous, dans nos ateliers, on a pris tous les ateliers constituants des gentilvirus. Donc, on étudie la Constitution 16, les constitutions étrangères, et ensuite, on regarde les autres travaux constituants faits par d'autres assemblées locales. Et à partir de là, ça nourrit notre réflexion et on essaye de faire le meilleur mélange de tout ce qu'on a vu de positif. Donc, pour moi, c'est une assemblée constituante nationale peut servir de liant à ces assemblées locales. Ça ne pose pas de problème. Évidemment, je ne vois pas de difficulté morale sur l'idée de multiplier les travaux constituants dans le pays, vu qu'en appelant à faire des ateliers constituants, en fait, c'est ce que je fais.
Je peux rebondir rapidement. Je l'entends tout ce que vous dites et c'est extrêmement intéressant. Mais je vais donner un exemple concret des risques, on va dire, concourus. Si on donne comme ça la responsabilité de décisions importantes à des gens qui ne sont pas toujours connaisseurs des conséquences. Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu cette volonté de Macron pour apaiser les choses, de mettre en place un semblant de RIC avec des gens qui ont fait des propositions, et des propositions qui étaient retenues, d'ailleurs, qui étaient voulues par cette assemblée populaire qui a été formée à ce moment-là, c'était de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français, pour des raisons que moi je juge idéologiques et qui sont déconnectées de la réalité, mais enfin, après ça, c'est mon avis. Mais pourquoi, en fait, la France s'est dotée d'électricité nucléaire à l'origine? C'est pour avoir la souveraineté énergétique. C'était la volonté de Charles de Gaulle. C'est dire on ne veut pas être dépendant ni des pays producteurs de gaz ou de pétrole, on veut avoir notre propre énergie parce qu'en fait, en cas de problème, on est souverain pour produire notre énergie, on ne dépend pas des autres. Donc, quand il y a eu cette décision qui partait de bonne volonté, mais qui n'a pas considéré, justement, c'est ça le problème. En fait, c'est-à-dire que quand on demande à des gens de se prononcer sur un sujet, parfois, ils ont une vue assez étroite, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas toutes les dimensions ou tous les facteurs qui rentrent en jeu. Et quand on a diminué la part du nucléaire dans le mix énergétique français, on n'a pas considéré le risque en fait de perdre nos fournisseurs d'énergie pour des raisons stratégiques ou géopolitiques. C'est ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Et en fait, on a relancé le nucléaire en contradiction avec cette décision populaire qui était faite de dire on doit réduire la part nucléaire. Donc, j'alerte là-dessus, c'est dans le sens où sur certaines décisions, il faut pouvoir, après, j'entends que le peuple doit se prononcer, mais il faut l'éclairer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait tous les éléments, il faut vraiment tout considérer. Et c'est parfois, et je finis là avec un autre exemple, comme avec le Brexit, une part des gens qui ont voté pour le Brexit, parce que, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, celui qui a porté le projet, il a dit ce qu'on donne à l'Europe, on va donner au système de soins, à la NHS, le système de santé anglais, et beaucoup de gens qui étaient crédules, qui pensaient que l'argent qui était donné à l'Europe allait être investi dans le système de santé anglais, ils ont voté pour cette raison-là, ce qui était un mensonge grossier parce que l'Angleterre...
Nigel Farage, c'est ça?
Pardon?
Nigel Farage?
Non, c'est pas Farage, c'était l'autre qui était Premier ministre pendant très peu de temps, j'ai oublié son nom. Ça va me revenir, mais il avait fait toute sa campagne sur là, on donne tant de milliards à l'Europe, on va pouvoir les investir dans notre système de santé. Il y a beaucoup de gens, ça les touche, et je peux les comprendre parce que le système de santé en Angleterre, il est merdique comparé à d'autres pays. Ils se disent pourquoi on donne de l'argent aux Français, aux Polonais, aux Allemands, alors qu'en fait, on peut avoir un meilleur système de santé. Résultat des courses, et ça c'est prévisible parce que c'était un mensonge grossier, c'est que l'Angleterre, elle est plus pauvre aujourd'hui, et surtout, en fait, elle a un système de santé qui est encore pire qu'il était avant. Parce que tout simplement. Ah, oui. En fait, pour moi, ce qui est important, si on fait appel aux décisions du peuple, il faut quand même qu'il y ait une espèce d'organe qui puisse ne serait-ce que valider, en tout cas quand il y a des... Je vais donner un exemple simple. Si on fait une campagne...
Non, mais il faudrait vraiment que tu abrèges, parce que là...
Oui, je fais un exemple. Non. Si on fait une campagne, c'est pour dire que le fémur est un os de l'épaule, du bras, en fait, j'aimerais qu'il y ait un organisme qui dise non, on peut pas dire ça à la population, le fémur, c'est un os de la cuisse, c'est pas un os du bras. Et si quelqu'un veut se porter dans ce combat démocratique avec comme premier argument le fémur est un os du bras, il faut qu'il y ait un organisme qui dise factuellement, là, cette personne est en train de mentir et on ne peut pas la laisser. faire campagne sur un mensonge qui est grossier, parce que le fémur, c'est un os de la cuisse, c'est pas un os du bras. Donc en fait, c'est ça que
Attends, vraiment, il faut que je fasse passer
Ouais, bah j'ai fini en fait mon propos. Ouais.
Je pense que là, c'est vraiment un problème sur le fond, sur est-ce qu'on se fait confiance collectivement ou pas. Et voilà, je pense que c'est vraiment un autre sujet. Là, on faut vraiment canaliser les questions sur la question stratégie. Hein.
Très rapidement, deux points. Il n'y a personne chez les démocrates qui est contre le fait qu'avant une décision, le peuple soit éclairé. Il n'y en a pas. Donc, il faut pas s'embêter avec ça. Tout le monde y est favorable et voilà, le peuple sera éclairé parce que l'entièreté du peuple souhaite que le peuple soit éclairé avant de prendre une décision. Donc, ça, c'est pas un souci. Ensuite, sur la question nucléaire, la souveraineté énergétique, c'est une question constitutionnelle. La question du comment ne l'est pas. Est-ce que c'est le nucléaire? Est-ce que c'est le 100% nucléaire? Est-ce que c'est tel type de nucléaire? Tout ça, ce sont des questions législatives. Et donc, ça ne concerne pas directement notre question de souveraineté là, tout de suite.
Ok, je vais passer la parole à Gaillon, puis à Étienne Chouard.
Bonsoir tout le monde, j'ai deux points, il y aura une question justement pour vous. Deux points pour parler de la Convention citoyenne pour le climat, parce que je trouve que c'était plutôt quand même quelque chose de bien, malgré le fait que ce soit une question fermée. La question fermée, c'était il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre de 40%, faites-nous des propositions. Donc c'est ça qui a pêché, mais quand on regarde après ce qui s'est passé, je trouve qu'il y a eu des choses positives. Notamment le fait qu'avant qu'ils prennent leur décision, ils ont le droit de faire venir qui ils voulaient. Et c'est ça, en fait, qui est important, je pense. C'est-à-dire que si on dit, on vous donne tel expert, et vous devez faire quelque chose autour de ça, ça ne va pas. Si, par contre, les citoyens tirent au sort, ont le choix de dire, moi, je veux Étienne Chouard, et je veux Marc, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. C'est le consentement éclairé de gens qui choisissent eux-mêmes les intervenants. Parce que, voilà, en fait, pourquoi ils ont été formés au départ? Parce que le sujet écologique qu'ils ne connaissaient pas. Donc, il y a eu cette démarche-là. Donc, et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu à côté d'eux des juristes qui ont pu mettre en droit, en fait, leurs idées, parce qu'on ne s'improvise pas juriste du jour au lendemain. Il y a des choses qui peuvent dysfonctionner par rapport au droit aussi, donc il fallait prendre en compte ça. Donc, je pense que, du coup, il y a quand même un bon processus de départ, c'est-à-dire le consentement éclairé avec des personnes dont on a nous-mêmes choisi, et en plus, on respecte les idées qu'on veut poser, on a juste besoin de scribes juristes qui nous mettent ça en forme. Et finalement, quand on regarde le résultat, donc ça donne 149 propositions, dont Macron, je vous rappelle, avait dit « je reprends tout sans filtre », puis ensuite en disant « finalement, je vais quand même exclure trois trucs », et finalement, bon, il n'a quasiment rien fait, mais moi j'aurais aimé que ces 149 propositions s'appliquent, elles étaient très pertinentes, je préférais largement être gouverné par une convention citoyenne pour le climat que par Emmanuel Macron, par exemple. Alors, c'est peut-être offensif, moi ça me plaît encore plus parce que je suis de gauche, je suis mélanchoniste, je suis assez offensif sur ces questions-là, mais c'était la baisse de la vitesse de 130 à 110, c'était la surtaxe des véhicules lourds de plus de 2 tonnes, c'était par exemple aussi l'interdiction des vols intérieurs à partir du moment où il y avait une ligne de train à moins de 4h30. Bon, il y avait toutes ces choses-là, mais il y avait aussi d'autres choses parce que, en fait, ils étaient répartis en groupes. Il y avait le groupe se loger, se nourrir, etc. Donc, ils avaient tous des petits groupes, dont très certainement qu'ils devaient choisir dans quel groupe ils devaient appartenir. Et ça a dépassé, par exemple, ils ont parlé de la loi Egalim et du fait de passer en bio, de passer la part de bio de 6,1 à 20%, par exemple. Donc, vous voyez, ça balayait large. Et donc, du coup, ça a été intéressant. Ça a donné des bonnes propositions. Et là aussi, où c'est intéressant, c'est qu'il y a toujours, en fait, des gens qui vous diront, mais si... le peuple n'est pas capable de abaisser son confort parce que il a tellement été dans le confort que enlever un gramme de confort, il en serait incapable. Bah là, en fait, ils l'ont fait. Donc, moi, je pense que le peuple, contrairement au capitalisme, est tout à fait raisonnable. Et si on lui dit c'est la merde, il va falloir faire un peu des efforts, il est capable de faire des efforts. Là où le capitalisme, lui, s'il ne pense qu'à ses logiques de rentabilité, il fera aucun effort. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là de pouvoir dire aux personnes, soyez rassurez-vous, le peuple, si tu le prends pas pour un con finalement, hein, parce que c'est ça l'idée, eh bien en fait il prendra les bonnes décisions un peu comme un bon père de famille, et même si c'est la merde, eh bien, il sera capable de se dire bah là on va quand même essayer de faire des efforts. Et en fait moi du coup j'ai une proposition à vous faire, parce que comme du coup je trouve que globalement, même si au départ c'était une question fermée et que la question n'est pas ouverte, hein, j'en avais discuté d'ailleurs avec Étienne Chouard sur ce point-là, on pourrait imaginer en fait, parce que moi je crois pas au grand soir révolutionnaire avec la fourche et on va prendre le pouvoir. J'ai du mal à croire aussi qu'on va pouvoir écrire demain une constitution, qu'elle va pouvoir s'appliquer. Et du coup, j'essaie de regarder dans le droit qu'est-ce qu'il est possible de faire de manière opérationnelle et possible. Et bien, en fait, si on organisait un RIP, le RIP, c'est possible, ça existe. Le RIP, il faut réunir, il faut qu'il y ait 58 députés qui déposent ça, puis ensuite 4,10% du corps électoral. Et à ce moment-là, on peut organiser quelque chose. On n'a pas pu faire pour la réforme des retraites parce que ça avait bloqué sur le fait qu'on n'avait pas le droit d'aggraver une charge publique. Donc le RIP a été retoqué et a été refusé ce principe-là. Mais là, en l'espèce, de demander de créer un RIP qui instituerait, voilà, c'est ça l'idée, une convention citoyenne en toute matière. Donc là, on l'a fait pour le climat, mais on pourrait l'imaginer pour la retraite, on pourrait l'imaginer pour la défense, on pourrait l'imaginer pour toutes les matières. Du coup, ça n'aggrave pas la dépense d'une charge publique, donc je ne vois pas pourquoi le Conseil constitutionnel pourrait censurer ça. Et du coup, voilà, je ne vois pas pour l'instant de phénomène bloquant d'un truc qui serait déjà un bon point de départ, qui serait en plus formateur, parce que s'il y avait ça qui serait un peu institué, bah ça, il y a des démonstrations qui seraient faites, et puis peut-être que demain, on pourrait obtenir plus, hein, en obtenant un peu, bah après, on peut obtenir plus en se disant, bah regardez, finalement, on a créé ça, ça marche, pourquoi on ne pousserait pas la logique ? Imaginons, je ne sais pas, dans un monde incroyable, on abroge la réforme des retraites parce qu'il y a ce fameux truc-là, passé par le RIP, qu'on a le droit de faire une convention citoyenne pour les retraites et que le peuple, du coup, décide de l'abroger. Et que du coup, je pense que puisqu'il y aurait une décision comme ça, après, il faudrait pouvoir lui donner du contenu. Après, oui, après, Macron a pu réfuter la convention citoyenne pour le climat. Donc, effectivement, il y a eu encore ce truc où Macron a pu réfuter, donc il faudrait... mais voilà, c'est une proposition. Alors, laisser... donc comme ça, elle est encore un peu bancale. Vous voyez, je réfléchis à votre avec vous. Mais voilà.
On va laisser Léo répondre. Moi, personnellement, j'ai un problème avec le fait de. Comment dire, de supposer qu'on va nous laisser faire. Et je ne conçois pas en fait, qu'on soumette en fait, l'avancée d'une démocratie directe au bon vouloir du Conseil constitutionnel ou de qui que ce soit qui nous laisserait faire. Mais je laisse Léo répondre. Léo Girod.
Ouais, donc convention climat pour aller vite, question fermée sur le CO2 effectivement, tirage au sort en fait de volontaires, donc un gros biais parmi les participants, mais surtout la fin, c'est pas Macron qui a envoyé chier la convention, c'est elle-même. Il y a eu un vote pour savoir si leur proposition devait être soumise à référendum au Parlement. Et la majorité de l'Assemblée a estimé que le peuple n'était pas capable, n'était pas arrivé au même niveau de conscience qu'eux, parce qu'ils n'avaient pas eu affaire à tous ces experts et tout ça, et que donc ils ne seraient pas capables de prendre les décisions, et donc le référendum n'est pas l'option qu'ils ont choisie. Ils ont choisi de déposer ça au Parlement, et c'est le Parlement qui a chié dessus, mais c'est de leur faute. Donc, point important, faut pas laisser des gens, même tirés au sort, leur laisser la possibilité de mettre à l'écart le peuple, car ils le feront. Voilà, il faut le savoir. Maintenant, le RIP. Donc, le RIP, c'est un peu plus que ce que j'ai entendu. C'est 185, je crois, parlementaires.
58, c'est 58 députés, je crois, qui déposent.
C'est des parlementaires. Ouais.
Oui, pardon.
Donc, il faut cumuler, mais il me semble que c'est 185.
Non, je confonds avec la motion de censure, pardon.
Un pourcentage. Par contre, ce qui n'est pas un pourcentage, c'est le nombre de signatures des citoyens qu'on est obligé de mettre par-dessus. Ce n'est pas 4,5 ou 8%, c'est 10%. Ça fait 4,8 millions et c'est énorme. Mais ce n'est pas ça le problème du RIP. Le problème du RIP est que lors de sa mise en place, le comité Balladur a remplacé un mot par un autre, détruisant le RIP. C'est-à-dire qu'à la base, ça s'appelait le référendum d'initiative minoritaire. Et l'idée, c'était de permettre à une minorité de l'Assemblée de déclencher un référendum. Ils ont mis en place donc ce qu'ils ont appelé par la suite RIP, mais c'est principalement les médias qui l'ont appelé RIP. Dans la Constitution, il n'y a pas écrit référendum d'initiative partagée, tout simplement parce que ce n'est pas le cas. C'est une pétition d'initiative parlementaire. L'initiative n'est strictement pas partagée, donc nous, on n'y peut rien. Si on n'a pas les 185 parlementaires, on n'y arrivera pas. Et en bout de course, donc, le comité Balladur a remplacé le mot « adopté » par « examiné ». La phrase était « si la proposition n'a pas été adoptée par les deux chambres, elle est soumise à référendum ». Et ils ont remplacé « adopté » par « examiné ». Donc, si la proposition n'a pas été examinée par les deux chambres, elle est soumise à référendum. Sachant que l'exécutif a la main sur une partie de l'ordre du jour et que de toute façon, s'ils sont contre la proposition, ils vont l'examiner, il n'y aura jamais de référendum par le RIP. Maintenant, il existe une possibilité qui va être tentée là, dans le cadre des États généraux de la démocratie de mon ami Louis-Marie Blanchard, à suivre. Donc l'idée, c'est de faire une pétition auprès du CESE pour que le CESE finance le sort d'une assemblée constituante, enfin en tout cas une assemblée de réflexion institutionnelle, disons ça comme ça. Et donc on va voir si le CESE accepte de jouer à ce jeu-là, parce que ce sera une expérimentation très intéressante si ça a lieu. Donc la prochaine étape, là, ça va être une pétition sur le site du CESE sur laquelle il va falloir essayer d'obtenir 150 000 signatures, je crois.
Ok, Ok, on va passer la parole à Christophe, je crois. Les autres sont redescendus, donc je pense qu'ils ont eu réponse à la question qu'ils avaient. Vas-y.
Ouais, bonsoir à tous. Je voudrais réagir sur deux ou trois trucs. Sur la problématique du tirage au sort d'une constituante, il y a le fameux débat entre ceux qui pensent que le tirage au sort est la meilleure solution, et j'en suis, et ceux qui pensent que seuls des élus, des experts ont la compétence pour écrire quelque chose de bien. On n'arrivera jamais à les mettre d'accord, à mettre les deux équipes d'accord. Et la solution adoptée par Méluche pour mélanger un peu des deux est totalement insatisfaisante pour les deux. Donc je pense que à chaque fois, quand ce débat se présente, il faut présenter l'option de dire, eh bien, on fait deux assemblées constituantes, l'une élue, l'autre totalement tirée au sort, chacune développe son projet de son côté, éventuellement, elles ont même le droit de regarder au-dessus de l'épaule du voisin pour voir ce que fait l'autre assemblée, et puis à la fin, on fait un référendum à trois cases, proposition de constitution numéro 1 par les élus, proposition de constitution numéro 2 par les tirés au sort. Aucune des deux constitutions ne vous convient. Voilà. Et comme ça, proposé comme ça, je vois personne qui peut s'y opposer et ça termine le débat. Voilà. Bon, vous me direz plus tard ce que vous pensez de cette proposition-là. Je voulais réagir aussi sur la complexité d'une constitution et le fait qu'à chaque fois qu'une constitution a été proposée au peuple français, on lui propose un grand bloc avec 50 ou 80 articles et puis il doit dire oui ou non en une seule fois sur tout ça. Et forcément, il y a des compromis, il y a des gens qui trouvent que tel article ne convient pas. Et si on veut faire une constitution trop avant-gardiste, trop évolutionnaire, ça risque de froisser beaucoup de gens. Et donc, je pense que ça serait beaucoup mieux de réfléchir à un processus constituant sur plusieurs années où tous les 6 mois, ou tous les 4 mois, enfin tous les 6 mois, on va dire, on s'attaque, le peuple français vote pour changer une partie de la Constitution à choisir, à savoir que la toute première partie, ça doit concerner le RIC et les médias, et que la suite, eh bien, c'est un peu au choix. Et par exemple, je prends une partie qui est très clivante, très compliquée à décider. Par exemple, la partie monétaire. Il y a beaucoup de propositions possibles sur la création monétaire, sur la reprise de la Banque de France, le pouvoir. Est-ce que la Banque de France est sous contrôle de l'État? Est-ce qu'elle est pseudo-indépendante, etc. Voilà, ça, c'est une discussion très, très compliquée. Si on met ça dans un paquet de constitutions dès le départ, on va embrouiller les gens sur des considérations qui pourraient faire échouer l'approbation de cette constitution, alors qu'il y a des choses plus importantes au départ. Même si l'argent, c'est très, très important, je pense que le pouvoir souverain du peuple est en premier, et après, il y a plein de choses sur le pouvoir de chacune des assemblées, de la justice, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment découper ça en tranches sur plusieurs années, pour arriver à quelque chose de bien et que le peuple ait le temps de réfléchir à chacun des paquets.
Oui, ça se défend. J'ai vu qu'il y a Étienne qui est remonté. Est-ce que... Oui, tu avais un autre point ?
Oui, j'avais un troisième point, tant que je me rappelle. Je relève le doigt après, la main après.
Ok, Etienne. Je te repasserai la parole.
Rapidement, si je peux répondre, parce que j'ai rien à répondre. Je suis comme très souvent d'accord avec tout ce que tu as dit, Chris. C'est très juste. Je voulais juste préciser quand même, j'ai mis dans la bulle là un lien vers un processus constituant tiré au sort qu'on a développé en atelier, qui mêle de l'initiative citoyenne, des assemblées locales de volontaires, une assemblée tirée au sort, des méthodes sociocratiques. Enfin, c'est un truc très abouti qui est un processus constituant dérivé, qui est donc quelque chose à renouveler. Ce n'est pas pour écrire une nouvelle constitution, c'est pour faire plein de révisions et qui elle-même est découpée en sous-étapes avec avec des systèmes de référendum, notamment par jugement majoritaire, pour guider l'Assemblée dans ses travaux. Donc, on réfléchit quand même à des solutions pour plaire à ceux qui veulent, ceux qui sont pour l'Assemblée donc volontaire, ceux qui sont pour la participation de tous les citoyens, ceux qui sont pour les assemblées locales, tout ça. On exclut un petit peu l'idée de faire les élus, mais j'achète complètement ta stratégie là de mettre en concurrence une assemblée élue et une assemblée tirée au sort. Ça me ferait vachement marrer.
Vas-y Chris, je laisse reprendre la parole et après on passera la parole à Étienne Chouard.
Oui, alors c'était, je me suis rappelé, c'était sur le CESE, l'organisation d'un tirage, enfin, d'une assemblée financée par le CESE. Pourquoi pas, j'ai beaucoup de doutes sur les intentions du CESE et de toute manière ceux qui sont à la tête de ça. Par contre, ce que je pense qui pourrait être tenté en regroupant toutes les associations autour de la démocratie directe, c'est de commencer par elle-même de créer une institution, une organisation, mais pour nous, ça sera le début d'une institution, où on tirerait, 20 ou 30 personnes, pas plus, par défaut de moyens financiers d'organisation. Mais déjà avec 30 personnes, on commence à avoir le dessin de ce que ce peuple approuve ou n'approuve pas. Mais surtout si on par exemple on fait une majorité qualifiée à 66%, c'est-à-dire n'est retenu que des propositions votées à 66%, avec 30 personnes, c'est à peu près suffisant pour à peu près être certain que si on avait tiré 1000 personnes avec une majorité à 50%, on l'aurait eu aussi. Et donc avec un mécanisme comme ça, on pourrait tester des propositions de constitution, c'est-à-dire telle proposition contre telle autre proposition, laquelle vous préférez. Et au fil des mois et au fil des années, on renouvellerait par exemple chaque année les 30 tirés au sort et on ferait du versionning de constitution sur chacun des points. Et comme cette organisation, cette institution prendrait de l'ampleur, elle serait médiatisée, on pourrait faire des crowdfunding, donc des financements participatifs où les gens cotiseraient un peu d'argent chaque année pour que cette institution prenne de l'ampleur et on passerait de 30 à 50 tirés au sort puissants, on pourrait même les payer, on pourrait les rassembler en un seul lieu. Et au fur et à mesure, le but de ce que je suis en train de dire, c'est d'arriver avec une version de constitution dont on est à peu près sûr que le peuple la veuille, parce que dans tous les ateliers constituants, les constitutions auxquelles on arrive au bout du compte, les propositions, si on les présentait à un référendum, à mon avis, elles auraient peu de chances d'être approuvées parce qu'il y a des choses qui sont trop dérangeantes, compte tenu que les gens qui participent à ces ateliers sont déjà des gens qui sont soit militants, soit déjà transformés, soit très conscients, et pas le niveau de la population générale. Et donc, le but d'une telle chose, c'est que le jour où arrive une crise, on ait sous la main une proposition de constitution dont on sait qu'elle a un haut degré d'approbation immédiatement et que la nature ayant horreur du vide, en cas de crise de régime, il faut très vite avoir une proposition à faire au peuple parce que le temps perdu, c'est l'oligarchie qui s'organisera et qui le prendra. Qui prendra la chose de court ou dans le virage, on va dire. Voilà. Bon, voilà, j'ai fini mon intervention.
Comme on dit souvent, l'intelligence collective, il est bien ton projet, tu le fais ?
C'est une perche que je lance à Étienne Chouard parce que le seul qui aurait l'aura pour au moins... attirer les gens autour de ce projet, c'est lui. Après, il y a plein de gens qui pourraient l'organiser et faire les petites mains. Mais si Étienne voulait se lancer, donc non pas dans une course à la présidentielle, mais comme le tuteur, on va dire, le sage qui lance une institution, un peu comme Solon, qui avait été l'initiateur de la constitution grecque, donc qui lance ce procédé-là, je pense que beaucoup de gens le suivraient. Et que les choses pourraient s'enchaîner facilement.
Étienne, est-ce que tu veux répondre?
Ouais, vous m'entendez?
Oui.
Moi, je voulais réagir à ce que disait NID tout à l'heure, quand il parlait des experts, et quand il disait « c'est complètement fou de laisser le pouvoir constituant à des incompétents », c'était ça le sens de ce qu'il voulait dire, c'était des gens qui n'étaient pas... qui n'était pas expert en constitution. Et je trouve que cet argument, qui est vieux comme Aristote, hein, où en fait, bah ça fait longtemps, hein, tous les philosophes, ou presque tous les philosophes, étaient antidémocrates et faisaient la comparaison avec le médecin et avec le capitaine de navire, et tous conchiaient la démocratie, en fait, et la déconsidéraient en faisant l'éloge des experts et en discréditant les citoyens. C'est lié au sujet, hein, puisque si j'ai bien compris le sujet, c'est l'accès au pouvoir, comment on fait pour accéder à une démocratie directe. Et il me semble que un des obstacles les plus importants, c'est le complexe d'infériorité que nous nourrissons tous et que les dominants entretiennent chez nous. On nous rebat les oreilles avec le fait que nous ne sommes pas compétents et que seuls des experts peuvent diriger. Or, précisément, là, il me semble, hein, nous devrions apprendre à nos enfants, apprendre nous-mêmes et ensuite apprendre à nos enfants et faire et défendre cette idée. Et donc répondre à une idée que, en matière politique, il n'y a pas d'expertise. Le postulat démocratique, c'est que, ok, en médecine, c'est pas le cas. Ok, en finance, c'est pas le cas. Ok, en sciences maritimes, c'est pas le cas. D'accord, là, il nous faut des experts qui prennent des décisions, admettons. Mais en matière politique, la démocratie dit, les démocrates disent, en matière politique, nous nous valons tous. Nous sommes également légitimes à décider. Alors, ça met à l'écart les experts. Ça les met pas à l'écart de la réflexion, ça les met à l'écart de la décision. Nous devrions, si nous sommes démocrates, faire très attention aux experts, comme les Athéniens faisaient attention. Ils avaient besoin des experts, évidemment. Il n'est pas question d'être anti-experts. Simplement, on sait que les experts vont avoir mécaniquement, par définition, quelles que soient les personnes, les experts vont avoir tendance à vouloir tout décider des autres. Ils se sentent, parce qu'ils sont effectivement supérieurs au niveau général, leur travail sur un sujet les a rendus supérieurs, comme les simples citoyens dans la convention dont parlait Léo là, et un autre d'entre vous. Là. N'importe qui devient expert se sent progressivement devenir légitime à tout décider à la place des autres et devient un antidémocrate fervent. Et donc, ceux qui veulent protéger la démocratie, ceux qui veulent instituer la démocratie, doivent savoir ça, savoir que les experts sont dangereux pour la démocratie. Bonne foi, c'est des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs et que donc c'est eux qui doivent décider, en oubliant d'ailleurs que les experts se contredisent, hein, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, donc ça veut dire que si on les laisse décider alors qu'ils sont d'accord, on va avoir un problème de même nature que, ou en tout cas un problème aussi grave que si on laisse décider la population. Mais comme le disait Léo, la principale réponse, c'est que la population, pour décider, a besoin d'être éclairée et que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, on sait bien que nous savons que nous ne sommes pas compétents et nous savons que nous allons avoir besoin d'écouter les experts avant d'opiner, avant de donner notre opinion. Ok, on sait ça, mais il est très important de ne pas laisser les experts décider. Or, tout aujourd'hui, dans tous les médias, tous les journaux, tous les intellectuels, tous conspirent dans l'expertocratie. C'est-à-dire qu'on est en train de donner, alors on appelle ça les technocrates, hein, on est en train de laisser filer toutes les décisions dans les mains des experts. Mais c'est parce que nous l'acceptons. Et donc, il y a vraiment une éducation populaire à faire pour que nous n'ayons pas peur de notre incompétence, qui n'est pas une nature, mais qui est un état, et qu'en travaillant, cette incompétence disparaît, en écoutant les experts pour, puis les experts contre, quel que soit le sujet, puis en voyant se disputer les experts pour et contre plusieurs fois, des experts différents, petit à petit, nous devenons non pas des experts, mais nous devenons capables, et sachant qu'on est au départ légitime, hein, mais en plus on devient capable de trancher de façon éclairée, et si on se trompe, eh ben, on corrigera. Mais il faut, alors, ce qui serait bien, c'est vraiment de prendre cet argument de NID au sérieux, parce que je crois que c'est un des obstacles les plus importants à l'évolution de l'idée démocratique, c'est que NID nourrit une espèce de sentiment de complexe d'infériorité qui est très partagé hein, dans toute la situation, et qu'il faut combattre. Oui, nous sommes incompétents sur les sujets très complexes, mais ce n'est pas définitif. Il suffira d'un bon éclairage pour qu'on soit beaucoup moins incompétents. Et d'autre part, bien sûr, l'incompétence, c'est pas spécifique à la population. Hein. Vous voyez bien que les élus ne sont pas plus compétents que nous. Quoi. Ils sont élus, mais ils ne sont pas compétents. Donc, ce n'est pas spécifique au peuple hein, d'être incompétent sur les sujets. Et puis, en plus, les sujets constituants, contrairement à ce que dit NID, ne sont pas si complexes. Il ne s'agit pas de prendre les décisions les plus complexes au niveau constituant. C'est assez simple hein, de décider qui décide. Hein, dans la Constitution, c'est ça qui est tranché. Donc voilà, je voulais juste m'insurger contre l'idée que les sujets constituants étaient trop compliqués pour nous et qu'il fallait que ce soit des experts qui s'en occupent. Les experts ne sont pas d'accord entre eux et on est bien assez grand pour s'occuper des règles de notre représentation. On n'a pas besoin d'experts pour ça et il est même essentiel de tenir les experts à l'écart de la décision. Pas de l'éclairage, mais de la décision. Voilà, j'ai dit...
Alors, pour info, merci Étienne, merci Étienne Chouard. J'ai remis le lien vers une vidéo où Étienne Chouard explique pendant 4 heures les bienfaits de la démocratie directe et du tirage au sort. Et je crois aussi qu'il y a une partie sur la monnaie et sur les experts. Donc, si vous avez envie de creuser ça, c'est en lien. J'ai encore 3 questions. Alors, on a dépassé l'heure de fin du space. Je ne sais pas si Cali nous laisse. Déraper encore un peu et si Léo est disponible. Mais je voudrais revenir sur en fait, les premiers sujets qu'on avait abordés, parce qu'on avait parlé de stratégie et de position de la Constitution par rapport au traité européen, et donc qu'on avait un peu de temps. Et ce que je voudrais savoir, c'est si on dépasse ce temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'antistratégie? C'est quoi la stratégie de nos adversaires? Qu'est-ce qui se passe et comment ils mettent en infériorité notre Constitution pour que les traités prévalent et qu'on ne soit jamais souverain par une méthode légale. Comment ça se passerait, ça? Est-ce que vous avez la réponse, Léo ou Étienne?
C'est un petit peu le truc de la mafia, tu sais. Ils arrivent, ils te créent un problème, et puis ensuite, ils te créent la solution. Et puis du coup, tu deviens dépendant à la solution, parce que si tu te mets à refuser leur solution, tu te retrouves avec le problème seulement. Et donc, tu as besoin de la solution avec le problème. Tu ne peux pas juste prendre juste le problème. Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire hein. Ils sont en train de créer tout un truc économique qui fait notamment économique hein, mais sur tous les points en fait. Ils sont en train de nous rendre dépendants, là je parle de l'Union européenne surtout, parce que c'est des traités qui ne sont pas comme les autres, c'est des traités qui ont un objectif fédéraliste, et donc leur objectif est clairement la perte de souveraineté des nations, voire la destruction à terme des nations. Donc, comment ils vont s'y prendre? Ils vont faire en sorte de plus ça va, plus en gros, on ne pourra pas en sortir. Ce ne sera pas viable de sortir ou de. Parce que le problème, c'est que vu qu'on ne peut pas vraiment les modifier, ces traités, du coup, la seule option qui reste, c'est d'en sortir. Moi, je pense que la France a une position particulière parce que la France a un territoire maritime énorme, a une capacité économique, a une armée, a la bombe nucléaire, et au carrefour de l'Europe. Je veux dire, à quoi ressemblerait le continent européen si tu enlèves la France sur la carte, quoi. Donc pour moi, la France a un rôle à jouer. C'est pour ça que je ne suis pas forcément un très grand défenseur du Frexit. Maintenant, si les gens veulent frexiter, frexitons joyeusement. Je pense que la France a un rôle à jouer contre cette machinerie qu'est l'Union européenne actuelle. Je pense que la construction européenne est une bonne idée. Je pense que la construction européenne qu'ils ont faite est une catastrophe et qu'il faut l'annihiler. Et que le problème, c'est que la France est dirigée par des serpillères. Je ne sais pas si c'est légal de dire ça, mais disons-le quand même. Et que il faudrait simplement qu'il y ait quelqu'un en France, parce que je pense que c'est le pays qui est le mieux placé, tape du poing sur la table en disant non, cette Europe-là, c'est pas nous, on n'en veut pas, elle n'aura pas lieu. Et elle n'aura pas lieu parce qu'on est la France et qu'on l'a décidé. Et que si vous voulez la faire, vous allez construire autre chose ailleurs, mais ce ne sera pas l'Europe. L'Europe, c'est quelque chose dont la France fait partie, et la France ne veut pas faire partie de ça. Donc, soit ça change tout de suite, soit c'est sans nous, et si c'est sans nous, soyons bien d'accord qu'il n'y a plus rien. Il faut bien comprendre qu'il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de dissuasion nucléaire, il n'y a plus d'espace maritime, il n'y a plus d'autoroute entre l'Espagne et l'Allemagne. Donc, soyons clairs. Voilà, on est à France et si on était dirigé par des gens qui ont un tant soit peu d'honneur, la situation n'aurait jamais dérivé pour en arriver là. Donc, je pense que comment se protéger de ce qui est en train de se dessiner, il faut arrêter de mettre des serpillères au pouvoir. Ce serait la première chose. Si pas à faire ça, il faut prendre le pouvoir nous-mêmes. Mais je vois pas d'autres options que de passer par une remise en place d'unité populaire et nationale.
Et si ils arrivent à mettre les traités au-dessus de la Constitution, on fait quoi? Je vois plus de solution en fait légale.
Bah, les traités, c'est-à-dire les traités européens, tu parles?
Oui, si, parce que comme tu disais au début, là, ils ont modifié le schéma. Et de façon sournoise, on voit qu'effectivement, c'est plus calé en dessous de notre Constitution.
Donc, même alors si ça, c'est pas eux, c'est nous qui l'avons modifié le schéma.
Oui, je sais. Mais,
c'est la France qui est responsable de ça.
Et donc, du coup, si une de nos serpillères réécrit dans 2 ans le schéma avec les traités au-dessus de la Constitution, on fait comment à partir de là? Bah, déjà, on a le Conseil constitutionnel qui verrouille tout ça. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où ils ont réussi à passer le bloc des traités de la Constitution? On n'est plus rien, on n'existe plus, donc il n'y a plus vraiment de moyens légaux à partir de là.
En fait, ça dépend, parce que là, ce qu'ils essayent de faire, en gros, c'est de le mettre à égalité, et à terme, peut-être qu'ils essaieront d'effacer les nations, parce que ça fait partie du grand projet mondialiste. Mais je pense qu'il y a des étapes intermédiaires dans lesquelles on va pouvoir réagir. Alors déjà, sortir d'un traité est toujours possible. Si c'est là qu'il faut en arriver, arrivons-en là. Maintenant, disons que il existe des options de retrait qui sont déjà pratiquées par plusieurs pays, Danemark, l'Irlande, la Suède, donc opt-out en anglais. C'est la capacité pour les pays à dire ok, bon, mais ce truc-là, non. C'est un petit peu est-ce qu'on prend le menu ou la carte? Bah, là, il y a un entre-deux qui est bah, ok, on prend votre menu. Par contre, nous, on est allergique à tel ingrédient, donc vous ne mettez pas cet ingrédient-là dans notre assiette. Il y a des possibilités. Après, si on place dans un futur lointain où ils auront réussi la destruction des nations, là, je ne peux pas répondre à cette question. Là, c'est une dystopie trop puissante pour moi.
Ok. J'avais 2 autres questions qui étaient sur quelle pression populaire mettre pour faire adopter le RIC. Quelle forme prendrait cette pression populaire? Et deuxième question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui un candidat ou un parti ou une association qui prend comme initiative de n'avoir que le RIC en ligne de mire? Est-ce que ça existe?
Ça tombe bien, c'est les 2 points que j'avais notés qu'on n'avait pas bien abordés. Alors, je crois que les 2 points mériteraient une soirée à part entière, mais... Sur comment mettre en place le RIC, donc on en revient à la question des stratégies, et j'avais mis le lien stratégie dans la bulle vite fait, parce que même si ça vaut pour la démocratie de manière générale, cette page a été faite et pensée autour du RIC et fait donc mention des différentes stratégies, des collectifs, et donc dernièrement, il y en a un nouveau qui n'est pas dans cette page, qui est « Solution démocratique ». Si on doit le mettre en place en respectant purement la loi, il faut passer par l'article 89. Et donc, soit il faut que le président, sur proposition du Premier ministre, dépose un projet de révision constitutionnelle pour mettre en place le RIC, soit il faut que ça vienne du Parlement. Mais même si ça ne vient pas du Parlement et que c'est le président qui dépose, dans l'article 89, il est prévu que les 2 chambres doivent se mettre d'accord sur le même texte après le dépôt. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que l'Assemblée et le Sénat votent le même texte. Voilà, donc cette voie est un peu fermée. Il ne faut pas l'abandonner, dans le sens où avoir une majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale, ce n'est pas impossible, c'est juste très très compliqué. Et c'est une projection à long terme. Moi, mes calculs me font dire que c'est 20 à 30 ans de travail pour y arriver. Et pas de travail comme ce qu'on a fait jusqu'ici, du travail sérieux, quoi. Genre prendre les institutions à tous les niveaux, sachant que pour prendre le Sénat, vu que c'est des élections indirectes, il faut prendre les mairies. Il faut être majoritaire sur le territoire municipal. avoir si possible des conseils généraux, enfin régionaux et départementaux. Donc c'est un gros travail de terrain parce que ce veto du Sénat dans l'article 89 est complexe. Maintenant, il existe une autre option par l'article 11. C'est ce qu'a fait De Gaulle deux fois. Donc c'est ce qu'on appelle un coup de force juridique souvent, voire un putsch juridique. Alors De Gaulle, on l'a laissé faire parce que c'était sa constitution et que lui le fasse, ça a été permis. Même Mitterrand, qui était absolument opposé, a fini par dire qu'il avait eu raison de le faire. Donc c'est une option, mais le Conseil constitutionnel, en tout cas lorsque c'était Fabius, a dit qu'il s'y opposerait farouchement. Là, l'idée, c'est de soumettre directement à référendum un projet de révision constitutionnelle. Donc l'article 11 permet que le chef de l'État dépose directement le truc. Maintenant, donc ça nécessite d'avoir le chef de l'État. Et on en arrive à l'élection et à Espoiry, qui est solution démocratique. Cette stratégie développée chez Espoiry, qui est donc basée sur l'article 11 et l'idée de faire comme De Gaulle a fait deux fois, même si ce n'est pas tout à fait comme ça que la loi prévoit qu'il faut le faire, ce coup de force juridique, alors on n'a pas la légitimité de De Gaulle, mais la légitimité populaire peut suffire s'il n'y a aucun doute sur celle-ci. Et donc que cette révision constitutionnelle, et donc là on parle de la mise en place du RIC, serait le seul point du programme. Ou alors s'il y a d'autres points dans le programme, que ce soit vraiment le premier écrit en gros et que le reste soit des détails supplémentaires. Que ça ne laisse aucun doute et que le Conseil constitutionnel n'ose pas s'opposer à la mise en place de ce référendum parce que ce serait s'opposer à un choix du peuple. Et ça, le Conseil constitutionnel n'aime pas trop faire ça. Donc, c'est une option qui nécessite une grande légitimité. Maintenant, Espoiry agit plus sous la forme d'un lobby, donc a créé un parti, le parti lui s'appelle Solution démocratique, parce qu'on est quand même conscient que, surtout là rapidement, je dis on parce que j'en fais partie aussi, hein, je fais partie des cofondateurs d'Espoiry, on sait qu'on ne va pas être élu et surtout pas rapidement. Ce serait possible peut-être pareil dans un futur lointain, ou comme dirait l'autre, sur un malentendu, ça passe. Mais vraiment, faut un gros malentendu, quoi. A priori, la stratégie est en fait de participer aux élections, de proposer cette stratégie de passer par l'article 11 avec pour seul programme ou pour programme principal cette mise en place du RIC constituant, qui pourrait être aussi un RIC en toute matière, mais bon, là, il se trouve que c'est constituant, adossé au référendum obligatoire pour verrouiller le truc et qu'il ne puisse pas retirer le RIC par la suite sans référendum. L'idée, c'est que quelqu'un d'autre reprenne ce programme, quelqu'un d'autre de mieux placé qui aurait la capacité d'arriver au second tour. Déjà, nous, on n'arrive pas à avoir les 500 parrainages. Alors, on fait partie des collectifs, on est même le collectif citoyen qui a obtenu le plus de parrainages en 2022, à savoir 36. Mais 36 sur 500, on est quand même loin du compte. On va voir si on arrive à faire plus cette année. On compte peut-être sur des désistements et des projets parallèles qui vont faire qu'à la fin, on va réunir les parrainages de différents candidats vers un seul. Espérons que cette option marche et qu'on puisse accéder ne serait-ce qu'au débat du premier tour et donc voilà, avoir une grosse influence sur le débat du premier tour. Mais voilà, cette stratégie-là, elle est possible, elle est claire sur le papier, elle est presque légale. C'est un peu son défaut. Ma qualité, c'est qu'elle est facile à mettre en place et elle peut se faire en une seule élection, contrairement à passer par l'article 89 qui prendrait, selon moi, 20 à 30 ans. Donc, et il faut donc également qu'elle soit adossée à une énorme éducation populaire pour que les gens comprennent que ce coup-ci, il ne faudra pas voter pour ton petit parti chéri habituel qui propose tous les trucs que tu aimes bien, mais voter pour celui qui va faire de toi le souverain. Et là, il y a du boulot, mais massif encore à faire. Donc, je vais pas vendre du rêve, c'est pas mon genre, je suis plutôt réaliste, pas pessimiste, mais pas optimiste non plus. Donc, faut se donner les moyens. De toute façon, c'est la stratégie légale la plus courte. Donc, si elle marche, tant mieux. Et si c'est des autres stratégies légales, il y en a d'autres qui marchent, ça peut le faire aussi. Après, il y a le lobbying en dehors de l'élection, c'est-à-dire convaincre des élus, sachant qu'il y a beaucoup d'élus qui s'opposent parce qu'ils n'y connaissent rien. La plupart des pays qui ont obtenu ce genre de méthode mise en place, genre le RIC, l'ont obtenu de la part d'élus en place. Donc, il ne faut pas négliger c'est cette partie-là. Après, ça dépend, voilà. Ça va dépendre de chacun à quel point il est complotiste, à quel point il croit, comme Étienne dit, qu'ils ne nous le donneront jamais et qu'ils préféreront mourir.
Alors, je pense qu'effectivement, ils préféreront mourir et que s'ils ne préfèrent pas mourir, ils se feront décapiter par la direction du parti, quoi.
Prenons-le au sens littéral, s'ils avaient un couteau sous la gorge et si c'était vote pour la démocratie ou crève, je pense qu'ils votent pour la démocratie quand même. Donc si la pression populaire est telle que leur avenir politique est lié à ça et que sans ça, ils n'ont plus d'avenir politique, ils choisiront l'option dans laquelle ils conservent un avenir politique.
Il y a un truc dans l'éducation populaire qui est fondamental, c'est que en fait, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il y en a, par exemple, qui ne jurent que par le Frexit. Et on ne peut pas leur parler de RIC. Et pour eux, c'est le Frexit. Ce sera, par exemple, les partisans de Philippot ou Asselineau qui seront complètement verrouillés là-dessus. Pour d'autres, c'est l'identité française, l'immigration. Et ceux-là, s'ils ne sont pas capables de renoncer et de faire confiance, finalement, à la légitimité populaire, au choix démocratique de l'ensemble des Français, on n'y arrivera pas. Et donc, il y a beaucoup de choses à sacrifier, je pense.
Après, il y a aussi réfléchir à un modèle économique, c'est-à-dire que le niveau d'éducation populaire auquel il faut qu'on arrive n'est pas possible parce que des gens qui, comme moi, travaillent sur ces questions jusqu'à 14 heures par jour, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il y a un moment, il faut que les sous y rentrent. Moi, je suis dans une démarche sacrificielle et je reproche pas aux autres de ne pas être dans une démarche sacrificielle. Si on veut que ça avance beaucoup plus vite que ça avance aujourd'hui, à un moment, il va falloir se mettre en commun et construire le modèle économique, faire une sorte de business plan. De l'avènement de la démocratie, quoi, parce que c'est pas avec une petite heure de militantisme par semaine, par-ci, par-là, qu'on va y arriver, quoi, clairement.
Absolument. Et je pense qu'on se fait drainer aussi beaucoup par des grèves, des choses comme ça, qui sont des... Quand on regarde la grève pour la réforme des retraites, hein, je crois que c'était 2 millions d'euros, là, la caisse de grève, un truc comme ça. C'est 2 millions qu'on a saigné aux Français pour un résultat minable. Pas beaucoup plus avec... Donc, il y a des choses comme ça où on se fait saigner sur d'autres sujets. Il va falloir organiser effectivement le financement.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les modèles économiques les plus classiques, donc ce qu'on appelle le financement de la vie politique, c'est basé sur deux éléments. Le premier, c'est les législatives. 1,60€ par voix obtenue et par année de mandat. Donc, ça peut faire beaucoup de pognon. C'est beaucoup de pognon qu'on ne va pas demander, là pour le coup on ne va pas demander des dons, c'est des sous qui ont déjà été prélevés aux gens par les impôts, il s'agit de les récupérer par les législatives et par donc, les 500 parrainages qui font une subvention de 800 000 €, il me semble. Et donc si on cumule 2 millions aux législatives plus 800 000 €, et qu'on y ajoute 2 millions issus de dons, de collectes diverses, machin, d'un seul coup on arrive avec un bon joli pactole qui permet de faire de grandes choses, sachant qu'une victoire à l'élection présidentielle est estimée à 10-12 millions d'euros, donc on n'y est toujours pas. Mais voilà, pour moi, le jeu électoral a une partie financière et donc le jeu électoral est à prendre en compte dans la stratégie des sous-sous, quoi.
Alors oui, et je rebondis là-dessus pour dire qu'il y a déjà un investissement à faire, ne serait-ce que pour devenir député. C'est déjà une campagne de député, c'est le minimum juste pour avoir les flyers et les bulletins de vote, tout ça, c'est à peu près 5 000 €. Donc, fois le nombre de communes de circonscriptions, donc fois 577, on est déjà sur des volumes importants.
Oui, mais on reste sur des petites sommes. C'est-à-dire que si on fait une vraie campagne qui a un vrai résultat, on va dépenser environ 50 centimes par voix obtenue, mais chaque voix obtenue nous rapporte 5 fois 1,60 €. Donc, le calcul, il est vite vu.
Il faut quand même aligner 3 millions au début. Hein.
Ah, et il faut sortir un peu des sous. Si on veut présenter 577 candidats aux législatives, ouais, il faut quand même ouvrir le portefeuille. Ouais. Mais on n'est pas obligé d'en mettre 577 au début. De toute façon, il faut partir du principe qu'il faut essayer d'aller à des endroits où on a des chances de faire des gros scores. C'est-à-dire que là, on ne parle même pas d'être élu. Hein. On parle juste de faire un gros score pour récupérer des sous derrière.
Alors, il faut voir aussi que c'est une campagne de communication. Hein, élection. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est l'occasion. Pour le moment, on peut encore s'inscrire assez librement. imprimer des flyers et transmettre aux électeurs. Pour le moment, ils ne sont pas verrouillés encore. Ils peuvent toujours changer ces règles, ils peuvent augmenter.
Après, il y a un truc dont on ne profite pas assez, c'est les Français de l'étranger, ils votent par Internet et ils distribuent en fait les mails d'inscription des Français de l'étranger. Et donc, du coup, on peut communiquer avec eux par mail, ce qui rend la com gratuite.
Bon, ben, il est... Merci. Il est 23h30, je pense qu'on va... On va clôturer le space. Mais Cali, avant qu'on clôture, il faudrait que tu réinterviennes.
Merci beaucoup, Marc, d'avoir assuré comme un chef. Merci à Léo pour ta présence. Merci à tous les intervenants qui ont participé et à tous les auditeurs qui ont pu écouter. Et effectivement, je vais vous rappeler que semaine prochaine, donc dans une semaine, tout mercredi prochain, nous retrouverons encore Léo et Étienne à un horaire un peu avancé puisque ce sera à 19h, où il y aura du beau monde puisqu'il y aura Alexandre Delanglois, Paul-Antoine Martin, Léo Giraud, Étienne Chouard et Didier Maïsto pour le lancement de l'Association des mairies démocrates de France, la MDF, que Stéphane vous présentera avec tous ses invités. Donc, merci encore à tous. Merci, Marc, pour avoir assuré comme un chef ce soir. Et je vous dis, j'espère dans un meilleur état, à la semaine prochaine, mercredi à 19h. Merci à tous, très bonne soirée et à très vite.
Merci, bonne nuit.